Je peux goûter comme ça?
Oui, 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 bien sûr.
C'est bon.
Chef, vous avez pensé au sel marin pour la mère La Bruyère? Madame La Bruyère, j'aurais comme tout le monde. J'accepte les régimes, mais pas les manies.
Qu'est-ce qu'elle veut sur ses frites, la mounade? La mayo, du ketchup, la sauce cocktail, la sauce au lapin?
Rien du tout, merci.
Elle préfère un poil, pas du sel. Ça, c'est bon, le sel. Faut mettre du sel. Sinon, après, t'as pas soif.
Faut mettre du sel, mais pas trop quand même. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau grand format dont on va déguster l'émission qui nourrit le corps et l'esprit. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h sur France Inter au menu de ces 2 heures de direct. Des saveurs, du savoir et de la bonne humeur. On va tout d'abord s'intéresser au sel, un ingrédient universel, sous les angles culturels, culinaires et scientifiques avec 2 invités, la cuisinière lyonnaise Sonia Esgulian et le biophysicien Christophe Lavelle qui va mettre pour nous le chlorure de sodium sous son microscope et vous allez voir que vous regarderez votre salière autrement. Dans la deuxième partie de cette émission, je vous sers tout chaud une tranche d'histoire. On explorera quelques-uns des grands repas de l'histoire de France avec l'historien Loïc Bienassi et notre Jean Lebrun de France Inter, celui qui anime la marche de l'histoire viendra nous faire un petit coucou amical pour évoquer notamment cette tradition française des banquets. Si vous avez des questions à la maison sur le sel en cuisine ou sur les grands repas de l'histoire de France, si vous voulez nous faire partager une recette de confinement, appelez-nous au 01 45 24 7000. Bianca et Théo attendent vos témoignages. Ils sont confinés à leur domicile mais bien avec nous en direct, c'est notre chroniqueuse Elvira Masson et notre expert vin Jérôme Gagnaise. Et puis on va se mettre à table aussi avec quelques-uns de nos amis de France Inter. Vincent Josse pour sa lecture gourmande, Laurent Delmas pour sa séance de cinéma mijoté aux petits oignons et Mathieu Conquet pour un nouvel accord mets et musique. Toutes les infos, les recettes, les podcasts de ce On va déguster XXL sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, On va déguster avec François-Régis Gaudry.
Comme chaque dimanche en ce début d'émission, on retrouve notre chroniqueuse Elvira Masson pour un point route sur les actions solidaires qui fleurissent dans le milieu de l'alimentation et de la gastronomie. Bonjour Elvira.
Bonjour François-Régis, bonjour à tous. Alors la date à laquelle les restaurants pourront rouvrir est encore inconnue, on l'a compris. Mais il est possible dès à présent, sans attendre que soit annoncé de réserver, votre déjeuner ou dîner et surtout de le prépayer via une plateforme qui vient de se créer. Ça s'appelle sauvetonresto.io. Et ça met en contact les futurs clients, vous, nous, et les restaurateurs qui s'inscrivent sur cette interface qui a été créée bénévolement par 2 startups, Emblem et Le Pot Commun. Alors on sait que la restauration en appelle à l'État pour la suppression des charges, la baisse de TVA, la création d'un fonds de soutien. On appelle également aux assurances pour qu'elles assument pleinement leur rôle. Mais là, ici, tout de suite, maintenant, ce qu'on peut faire, nous, pour les aider, les restaurants, c'est de leur assurer notre soutien et leur permettre d'avoir un peu de trésorerie. Et 1 euro sur chaque réservation que l'on fera sera reversé à la Fondation des Hôpitaux de France pour aider le personnel soignant.
Très bien, et
pas
ça
mal,
s'appelle Tous au Resto. Et d'ailleurs, l'émission très très bon...
Non, ça s'appelle Sauve ton Resto.
Sauve ton Resto, pardon, absolument. Et l'émission d'ailleurs très très bon que nous concoctons ensemble sur la chaîne Paris Première et les réseaux sociaux a décidé de soutenir médiatiquement cette opération. Vous avez une autre info, Elvira ?
Oui, bon, c'est justement que du fait de la date inconnue de rouverture des restaurants, ces restaurants sont en train de s'organiser partout en France pour assurer un service de livraison. Certains ont déjà bien commencé. On sait aussi que c'est un sujet sensible, la livraison. Plus on y fait appel, plus on met les livreurs en situation de contact potentiel avec le virus. Par ailleurs, on sait que les Uber Eats et autres Deliveroo sont pas les champions du respect du droit social. Alors, il existe une autre voie qui est en train de se développer de plus en plus. C'est la livraison par vélo cargo. Vous savez, ces vélos qui permettent de transporter un chargement assez copieux.
Ah.
Il existe une petite entreprise qui dessert Paris et sa banlieue, qui est organisée sous la forme d'une coopérative, donc c'est vertueux aussi en termes d'organisation sociale. Elle s'appelle Olvo, O-L-V-O.
Mm-hmm.
Ils sont super pros, rapides, responsables en termes de dépenses carbone et de conditions de travail.
Très
et accessible
bien.
Sur olvo.fr.
Olvo, parfait. De toute façon, les renseignements, les infos pratiques sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Et merci Elvira Masson de nous avoir appris ce qu'était un vélo cargo. Je voyais ça autrement, voilà. Moi. Je pensais que c'était une espèce de pédalo. Non, non, bon, pas drôle. On vous retrouve en tout cas tout au long de cette émission. Merci beaucoup, Elvira.
Bien
à plus
sûr.
Tard.
À tout à l'heure.
Ce On va déguster a été préparé à distance avec Nadia Chougui. C'est Laurent Thomas qui le réalise en direct avec Charles Pélabon. Maud Ventura nous aide à coordonner cette émission. Et Jean-Baptiste Audibert s'est occupé de la programmation musicale. En parlant de musique, je vous propose de rendre hommage au chanteur Idir, le grand ambassadeur de la chanson kabyle qui vient de nous quitter à l'âge de 70 ans. Sa chanson berbère, Vava Inouva, avait connu un succès international. Elle fut diffusée dans 77 pays, traduite en 15 langues. Une chanson qui fait du bien par où elle passe. Belle journée sur France Inter. Dégusté XXL, mets du sel aujourd'hui dans votre dimanche matin. Le sel, un aliment primaire, fondamental, universel, à la fois condiment, exhausteur de goût, agent de conservation, matière première précieuse, dont le commerce a bâti des civilisations entières, nous rappelle Jean-Christophe de Lannion, qui nous envoie ce message sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas d'évoquer la gabelle, le fameux impôt sur le sel, et de préciser qu'à Rome, on distribuait aux centurions une allocation traditionnelle de sel nommée salarium, à l'origine du mot salaire. Précision intéressante, merci Jean-Christophe. Même si on va sûrement évoquer le sel sur le plan surtout scientifique et culinaire avec nos deux invités. Christophe Lavelle, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biophysicien, chercheur au CNRS, auteur de nombreux ouvrages scientifiques, et la nourriture, la gastronomie, c'est votre terrain de jeu favori. Vous avez d'ailleurs été le commissaire scientifique d'une exposition qui avait beaucoup de succès avant le confinement au Musée de l'Homme. Je mange donc, je suis. Alors pour l'instant, on dit que cette exposition va être prolongée jusqu'en septembre.
Oui, jusqu'en septembre et peut-être au-delà en attendant les voir comment les choses évoluent.
D'accord. Et puis nous sommes également en ligne avec Sonia Esgulian. Bonjour.
Bonjour à vous tous.
Notre cuisinière de Lyon préférée.
Oui.
Et parmi les très nombreux ouvrages que vous avez signés, on trouve Le sel, 10 façons de le préparer aux éditions de l'Épure. Alors ça date de 1999. Mais vous avez aussi signé Le sel de Guérande, 10 façons de le préparer. Première question à tous les deux. Qu'est-ce que le sel? Ou comment le ressentez-vous? Je pose la question à la cuisinière et ensuite à notre scientifique, Sonia Esgulian.
Alors pour moi, le sel, c'est la petite touche indispensable qui va en fait souligner une certaine particularité de mon plat. Que ce soit d'ailleurs un plat sucré ou salé. Et c'est vrai que bah, d'abord, il n'y a pas un peu de sel, il y a plusieurs sels. Donc on peut vraiment jouer avec justement l'action de ces différents sels. Notamment avec la fleur de sel que je choisis avec le plus grand soin quand je termine les plats. Il y a des fleurs de sel un petit peu plus croquantes, il y a des fleurs de sel qui sont très iodées. Et j'avoue que pour moi, le sel, c'est l'indispensable qui va faire, en fait, vous savez, un petit peu comme une signature, quand on met un petit trait sur la signature, c'est vraiment ce qui va souligner une certaine note, un certain caractère de mon plat.
Ce qui rehausse le plat un peu comme une épice. Vous allez nous le prouver d'ailleurs, puisque vous nous avez préparé quelques recettes à base de sel, évidemment, mais où le sel joue un rôle particulier. Et je peux déjà renvoyer nos auditeurs vers une très jolie vidéo sur votre compte Instagram de Fougas, relevé au dernier moment comme ça, de fleurs de sel. La vidéo est d'ailleurs en ligne également sur franceinter.fr, à la page on va déguster. Christophe Lavelle, notre scientifique, pourrait-il nous donner une définition plus physico-chimique du sel?
Oui, bah je vais être beaucoup moins poétique. Hein. Le sel en physico-chimie, c'est un solide ionique, c'est-à-dire ce sont des cristaux qui sont faits d'assemblages de molécules chargées, donc on appelle des ions, et on les connaît sous des noms divers. Il y a le chlorure, le sodium, le sulfate, le magnésium, le potassium, tout ça sont des ions, c'est-à-dire qu'ils existent que sous forme chargée, et donc ils s'associent entre eux. Et donc à l'inverse, quand on met ces petits cristaux, donc de sel qu'on appelle parfois d'ailleurs sel minéraux, quand on les met dans de l'eau, bah ils se dissolvent, et c'est là que les ions se séparent les uns des autres et qu'on se retrouve effectivement dans cette eau avec du sodium et du chlore, enfin du chlorure, des sulfates et compagnie. En gros, tout ce qu'on trouve sur les étiquettes des bouteilles d'eau, quand on achète une bouteille d'eau, on a justement le minéral, on a toute cette liste d'ions qui font partie des sels quand ils se précipitent et quand on les concentre et qui deviennent solides. Mais c'est pareil pour les sels de bain, hein. D'ailleurs, c'est exactement quand on met ces sels de bain, c'est du sulfate de magnésium, du bicarbonate de sodium et puis des trucs qui donnent du parfum et de la couleur au bain, mais c'est aussi des sels.
C'est romantique, mais le sel fin de la salière, la fleur de sel, le gros sel, c'est chlorure de sodium.
Voilà, c'est... plus particulièrement chlorure de sodium, mais pas que, parce qu'il s'est aussi souvent contaminé avec un peu de chlorure de magnésium et puis d'autres types de minéraux, mais très très majoritairement, effectivement, suivant le degré de raffinage notamment, c'est du chlorure de sodium.
Sur le plan géologique, Christophe Lavelle, on fait souvent la distinction entre le sel marin et le sel de gemme. En un mot, la différence?
Alors, c'est la même origine, puisque dans tous les cas, c'est la formation des océans, il y a 4 milliards d'années, en arrachant à la roche terrestre des minéraux et sous forme de vapeur d'eau, puis après qui s'est condensé, ça fait les océans. La seule différence, c'est donc préhistorique, on va dire dans le sens que le sel marin, c'est celui qu'on récolte aujourd'hui en concentrant l'eau de mer, et le sel gemme, c'est celui qui s'est... accumulé il y a plusieurs centaines de millions d'années dans des endroits où il y avait des océans et où il n'y a plus d'océans maintenant, et donc ça a laissé sur place des mines de sel, mais qui au départ étaient aussi du sel marin.
Sonia Esgulian, vous avez, je crois, une affection particulière pour le sel de Guérande. Qu'est-ce que vous lui trouvez de particulier?
Mais en fait, c'est l'équilibre marin pour moi. Le sel de Guérande, ce qui me plaît, quand on va imaginer par exemple un plat, c'est d'apporter une note quelquefois insolite. Par exemple, on peut tout à fait marier le sel de Guérande avec du chocolat, et c'est très étonnant. Ou alors apporter justement un équilibre avec quelque chose d'évident, comme par exemple, j'aime beaucoup, vous savez, mon amour pour les sardines. J'aime beaucoup, par exemple, faire des sardines au sel, un petit peu comme on ferait les anchois. À la différence que je vais utiliser donc des filets, je vais les mettre un petit peu avec ce gros sel marin, parce que dans le sel de Guérande, on peut avoir aussi bien le gros sel que la fleur de sel, qui est un petit peu la petite paillette, l'éclat qu'on va recueillir justement dans les marais salants à la surface de l'eau. Mais avec le gros sel, je vais faire comme une sorte de gravlax, mais extrêmement rapide, et je vais obtenir ce goût marin extrêmement renforcé. Et puis il y a aussi l'éclat, en fait, le petit croquant, parce qu'il reste toujours un petit peu de sel, et quand on ne le laisse pas mariner très très longtemps, ce que j'aime beaucoup, c'est garder ce petit croquant, en fait.
Ah oui, puisque le sel, il y a également la texture. Alors justement, avant de continuer à explorer les effets du sel en cuisine avec Christophe Lavelle, vous évoquiez ce mariage entre la fleur de sel et le chocolat. Ouais, c'est vrai que d'ailleurs, quand on est au rayon chocolat des grandes surfaces, on peut tomber sur des tablettes avec pointes de fleur de sel. Il y a tout un marketing autour du sel sur le chocolat. Vous faites depuis très longtemps une mousse au chocolat fleur de sel. Je tiens à préciser que la recette est en ligne. Elle a été testée et approuvée par l'équipe dont on va déguster. Elle est en ligne sur franceinter.fr, à la page on va déguster. Racontez-nous l'esprit de cette recette et ses quelques étapes.
En fait, j'aime beaucoup cuisiner les souvenirs, donc j'avais envie de penser, d'avoir en bouche un peu de Bretagne que je ne verrai pas cette année, parce que j'aime bien voyager au mois de mai, bon, ça sera pour l'année prochaine. Et en fait, cette Bretagne, je l'ai concentrée dans ce dessert un petit peu. C'est extrêmement simple, en fait. C'est une mousse au chocolat avec un bon chocolat noir qu'on va le hacher assez finement. On fait chauffer une bonne crème si possible, parce que comme c'est en hommage à la Bretagne, on choisit une bonne crème. Donc pour 200 grammes de chocolat noir, je prends soit de la crème fleurette, soit de la crème un peu plus épaisse, 120 grammes. Je fais chauffer cette crème, je mets le chocolat hors du feu si possible, hein, parce qu'on ne fait pas chauffer trop le chocolat. Je lisse avec une spatule, donc on va avoir un chocolat bien fondu. Et à côté, c'est extrêmement simple, je monte 3 blancs d'œufs en neige assez ferme. Mm-hmm. Au dernier moment, je vais ajouter les 3 jaunes, donc ça fouette quelques instants avec les jaunes. Et je mélange ces deux préparations dans le chocolat. Évidemment, quand le chocolat a commencé à fondre, j'ajoute de la fleur de sel. Donc là, c'est la fleur de sel que vous voulez. Bon, sel de Guérande, magnifique. Mais on peut utiliser d'autres fleurs de sel. Et puis, donc, je mélange délicatement le chocolat aux œufs montés. Et la petite touche aussi importante, à mon avis, c'est de prendre des graines de sarrasin, de les faire torréfier sur un feu moyen quelques instants dans une poêle, sans rien du tout. Ah. Et quand la mousse au chocolat a bien pris au réfrigérateur 2-3 heures au frais, on ajoute ces graines de sarrasin bien torréfiées et on déguste. Franchement, il faut déguster les yeux fermés et voilà, on voyage. On est parti en Bretagne, mais vers d'autres horizons, c'est très, 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 très bon.
Et c'est aussi le sarrasin qui file, la métaphore bretonne, ça nous plaît beaucoup. Christophe Lavelle, quel regard de scientifique vous portez sur cette recette? On constate depuis pas mal d'années, alors évidemment, on a parlé de ce mariage entre le chocolat et le sel, ou la fleur de sel, qui serait un peu le sel élitiste, entre guillemets, la matière première précieuse. Mais des grands pâtissiers depuis les années 80, 90, un certain Pierre Hermé ou Philippe Conticini, pour ne pas les nommer, revendiquent d'assaisonner comme ça leur création pâtissière d'un peu de fleur de sel. Quel effet sous le palais? Le contraste avec le sucre?
Alors, contraste avec le sucre, oui. Il peut aussi y avoir la texture, quand le sel reste un peu sous forme cristalline, donc ça donne un peu de croquant, ce qui est toujours sympathique. Après, comme n'importe quel minéral, le sel aussi, il fait saliver, donc c'est vrai qu'il y a le côté une appétence naturelle, en fait, qui pour des facteurs évolutifs. En fait, le sel, comme le sucre, on a besoin de minéraux, on a besoin d'énergie, donc c'est des choses qui plaisent à tout le monde, de toute façon. Donc il y a un côté, par défaut, plaisant, parfois même dans l'excès, du côté salé, donc c'est plutôt flatteur. hauteur, donc évidemment que ça apporte quelque chose je dirais peut-être d'assez facile. Après, ça dépend comment c'est dosé, évidemment.
Le sel stimule nos glandes salivaires.
Oui, le sel, comme le sucre, effectivement, ça stimule les glandes salivaires et il y a vraiment ce côté qui prépare la dégustation et qui est un réflexe purement inné.
Chers amis, je vous propose justement un document historique sur lequel vous pouvez réagir. Le sel, ses effets et ses propriétés, figurez-vous que c'est un sujet sur lequel s'est penché le penseur de la Rome antique Plutarque. Écoutez l'éloge du sel qu'il écrivait dans ses propos de table, c'est une lecture de Vincent Josse.
Si par mets délicats, il faut entendre un mets qui rend la nourriture agréable, le meilleur doit être celui qui le plus longtemps peut retenir l'appétit occupé à ce que l'on mange. Ainsi, comme les philosophes appelés helpistiques déclarent que ce qui contribue le mieux à maintenir la vie, c'est l'espérance, de même, il faut poser en principe que rien ne concentre mieux l'appétit sur les aliments que ce dont l'absence rend toute nourriture désagréable et difficile à prendre. Or, parmi les nourritures provenant de la terre, vous n'en trouverez pas une qui présente cette condition. Voyons, au contraire, ce que la mer produit. C'est avant tout le sel. Sans le sel, rien, pour ainsi dire, n'est mangeable. Et de plus, mêlé avec le pain, le sel en rehausse la saveur. Voilà pourquoi Cérès partage le temple de Neptune et les autres nourritures n'ont pas d'assaisonnement plus agréable que le sel. Voilà encore pourquoi les héros qui étaient en quelque sorte habitués à pratiquer un régime simple et frugal et qui avaient supprimé de leur nourriture toute sensualité luxueuse et tout superflu au point de ne pas même faire usage de poisson quand ils campaient sur le détroit de l'Hellespont, voilà, dis-je, pourquoi les héros ne pouvaient se résoudre à manger les viandes sans sel. Ils témoignaient par là que c'est le seul assaisonnement qui ne se puisse refuser. Car comme aux couleurs il faut de la lumière, de même les aliments ont besoin de sel pour que le sens du goût soit excité. Sinon ils tombent sur l'estomac comme un poids fatigant et ils provoquent le dégoût. Les corps morts doivent être rejetés plus encore que les matières fécales, disait Héraclite. Or toute viande est chair morte et fait partie d'un mort. C'est le sel qui, la ranimant en quelque sorte, lui donne de l'agrément et de l'attrait. Voilà pourquoi l'on prend avant toute autre nourriture les mets piquants et salés, et en général ceux qui sont de préférence préparés avec du sel, car ils deviennent des excitants qui nous mettent en goût pour le reste des plats. Il y a plus, le sel divise les autres aliments. Ils deviennent plus accommodants, plus faciles pour la digestion, si bien que, à s'introduire du sel dans le corps en mangeant, on trouve le charme d'un assaisonnement et les propriétés utiles d'un remède.
Vincent Josse dans le rôle du grand sage Plutarque, ça lui va assez bien finalement. Le grand atelier de Vincent Josse, c'est tout à l'heure à 15h sur France Inter. Aujourd'hui, une rediffusion du grand atelier consacré à Isabelle Carré. Comment vous réagissez, Christophe Lavelle, biophysicien? Il ne disait pas que des choses fausses, Plutarque, entre le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ?
Non, mais après, il y a plein de choses. Effectivement, l'intuition, même si on n'a pas la compréhension de mécanisme, l'intuition amène à des belles choses. Il y a notamment cette notion de renforcer les saveurs. Bon, ça, aujourd'hui, on sait que c'est un peu plus compliqué que ça, comme toujours. Donc, le sel n'est pas vraiment un exhausteur de goût, c'est un modificateur de goût. C'est-à-dire qu'il y a des saveurs qui sont, au contraire, atténuées par le sel, comme l'amertume, par exemple.
Ah.
Et c'est pour ça que c'est plutôt sympathique, d'ailleurs. Et à l'inverse, par exemple, sur le sucre, c'est compliqué, parce qu'à faible concentration, le sel augmente la saveur sucrée, donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est utile dans la pâtisserie.
Intéressant.
Mais attention au dosage, parce que dès qu'on a haute concentration, par contre, au contraire, il éteint complètement la saveur sucrée. Donc tout ça pour des mécanismes qui sont pas encore très bien compris. Donc tout est vraiment question de dosage. Et là, on reste sur la saveur. Mais après, il y a aussi sans doute un rôle dans la volatilité des arômes, notamment, parce que du sel dans la salive, ça va changer ce qu'on appelle l'activité de l'eau. Et en fait, ça change la volatilité des composés aromatiques. Donc il est possible qu'il y ait des odeurs qui soient plus facilement détectables dans un milieu salé, ce qui peut, du coup, effectivement, modifier pas mal de perceptions.
On en apprend des choses. On a une auditrice en ligne qui a une question pour vous, Christophe Lavelle. C'est Colette. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Sainte-Flève-des-Loups. On est dans quel département ?
La Vendée.
La Vendée. Vous avez une question ?
Oui, je voulais savoir la différence entre le sel rose et le sel marin. parce que ce sel sort des contreforts de l'Himalaya. Je ne l'ai pas encore utilisé, donc j'aimerais avoir des renseignements là-dessus, en fait.
C'est vrai, Christophe Lavelle, pour compléter la question de Colette, qu'il y a une vogue énorme qui confine parfois peut-être un peu au snobisme sur « moi je préfère le sel de rose de l'Himalaya, ah, moi c'est celle de Guérande, moi c'est celle de Camargue, moi c'est celle de Maldon, un fameux sel dont la texture est particulière dans le sud de l'Angleterre. Au risque de décevoir tout le monde, c'est chlorure de sodium dans tous les cas ?
Oui, alors évidemment, c'est chlorure de sodium dans tous les cas à 99 voire plus %. Par contre, ce qui est vrai quand même, c'est que ce sont des différences qui sont dues justement aux contaminations, aux impuretés. Impuretés dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que à l'extrême, il y a le gros sel gris là dont on a parlé tout à l'heure, qui est vraiment le plus impur, mais parce qu'il est très riche en d'autres types d'oligo-éléments ou en magnésium. En
donc ce n'est pas 100% chlorure de sodium.
Donc c'est pas 100% chlorure de sodium, c'est chlorure de sodium avec des trucs dedans. Et les trucs dedans, pour le sel rose de l'Himalaya, c'est très clair, ce qui donne cette jolie couleur rose, c'est le fer. En fait, il y a du fer dans lion ferreux a une couleur rose, donc c'est ça qui est sympathique. Après, vous avez parlé des textures, mais ça c'est vraiment autre chose, c'est-à-dire que le sel de Maldon, effectivement, il est plaisant parce qu'il fait des espèces de petits cristaux pyramidaux, sachant qu'on pourrait obtenir exactement les mêmes cristaux chez nous en faisant bouillir de l'eau salée jusqu'à concentrer le sel. En fait, c'est juste dans la manière de produire le sel de Maldon, au lieu de le récolter sur les marais salants comme on fait à Guérande par exemple, là-bas ils font carrément bouillir, comme on faisait d'ailleurs, comme faisaient les Gaulois, ils avaient des fours à sel, ils faisaient bouillir l'eau de mer et puis ils récupéraient des cristaux. Et en fait, avec ce procédé un peu de cristallisation rapide, on a des cristaux qui sont creux au lieu d'être pleins, donc c'est ça qui donne ce petit côté pyramidal qui croustillant, un peu comme la fleur de sel d'ailleurs.
Oui.
Mais là, c'est purement une histoire de manière de récupérer le sel. Mais sinon, il y a plein de sels comme ça qui sont contaminés, qui leur donnent des couleurs particulières, ou qui sont même mélangés. Il y a le sel noir d'Hawaï qui est très connu aussi dans le snobisme.
Et qui peuvent du coup légèrement influer sur son goût.
Qui peut, à l'aveugle, c'est compliqué. Par contre, c'est joli.
C'est joli, effectivement. Merci en tout cas, Colette. Continue à manger du sel rose de l'Himalaya. Il paraît qu'il y a du sel, c'est bon nutritionnellement. On va continuer évidemment notre discussion. On donnera la parole à Sonia Esgulian pour une autre approche du sel très intéressante dans des citrons confits. Mais d'abord, penchons-nous, Christophe Lavelle, si vous le voulez bien, sur quelques certitudes culinaires sur lesquelles on aimerait votre avis scientifique. On dit par exemple que cuire des légumes dans l'eau bouillante, ça se fait avec du sel. C'est d'ailleurs ce que les cuisiniers appellent une chauffante, c'est-à-dire une casserole d'eau bouillante salée. Le sel empêcherait les sels minéraux de s'échapper dans l'eau, les sels minéraux des légumes, et le sel aiderait à fixer de surcroît la couleur des légumes verts. Vrai ou faux ?
Plutôt faux, hein. Dans le sens, ça change pas grand chose. Toujours pareil, en cuisine, pour avoir des effets, à la limite, faudra mettre beaucoup de sel ou trop de sel. Le sel qu'on met dans l'eau, il a le seul intérêt d'apporter un peu de goût salé aux végétaux. Si on veut garder les minéraux, vaut mieux cuire à la vapeur, hein. Ça sera encore plus efficace que cuire dans l'eau bouillante. Et à la limite, si on a vraiment perdu des minéraux dans l'eau bouillante, c'est pas grave, on fait une soupe avec et on récupère les minéraux. Donc tout va bien. Pour la chlorophylle, là, c'est sûr que ça a aucun effet. Contre la seule chose qui donne la belle couleur, cette magnifique couleur verte est due au fait que justement, il y a pour le coup du magnésium qui est piégé dans la chlorophylle. C'est un ion divalent. Or, quand on met du sel de table, NaCl, on a ce qu'on appelle des ions monovalents. C'est-à-dire que c'est pas du tout les mêmes ions. Donc, à la limite, si on voulait vraiment fixer la chlorophylle, et on pourrait, mais il faudrait rajouter des ions divalents. Donc, par exemple, du calcium, ça marcherait bien. Ou du magnésium, si on en rajoutait dans l'eau, ça permettrait effectivement d'augmenter la couleur verte ou du cuivre.
Ou du bicarbonate de soude.
Ou du cuivre, ouais. Bicarbonate de soude, mais pour une autre raison. Bicarbonate de soude, en fait, ça va rendre l'eau basique. Or, ce que le cauchemar des végétaux chlorophylliens, c'est l'acidité, parce que justement, pour le coup, l'acidité, c'est des protons H+, donc c'est justement des fameux ions monovalents et qui vont aller dégager le magnésium dans la chlorophylle et prendre sa place. Et en prenant sa place, le vert devient marron, quoi. Ça, c'est facile à faire. Tu mets un trait de vinaigre dans une autre cuisson et on se rend compte que le haricot ou les petits pois, ils deviennent verdâtres, marronasses. Et ce qu'on veut évidemment éviter, mais ça marche très bien. Et donc à la place, mettre du bicarbonate, ça permet de garder l'eau bien basique et donc les haricots bien verts. Mais par contre, ça accélère beaucoup la cuisson, hein, donc il risque assez rapidement d'être un peu filandreux.
On passe à une autre question, mais alors une réponse rapide. Je sais que pour un scientifique, c'est pas facile parce qu'il faut expliquer les phénomènes, mais vraiment rapidement, parce qu'on va en venir à la recette de citron confit. Faut-il saler la viande avant ou après cuisson ? C'est une question que tout le monde se pose.
Alors, déjà, le faut-il, en fait, c'est comme on veut. La seule chose, c'est que soit on est au moment de cuisiner, dans ce cas-là, on s'en fiche, qu'on la sale juste avant de cuire ou pendant la cuisson ou après la cuisson, ça change strictement rien.
Ah bon.
Par contre, si on a le temps, l'idéal, c'est de la saler, plusieurs heures, voire une journée, voire deux jours avant. Ça, c'est ça qui donne le meilleur résultat, parce qu'en fait, le sel va pénétrer doucement dans la viande, va commencer un peu à dénaturer les protéines, il va avoir un rôle de rétention d'eau, c'est-à-dire qu'in fine, on a une viande qui est plus tendre et plus juteuse.
En la salant quelques heures avant ou la veille, incroyable.
Quelques heures ou la veille, et c'est, le résultat est vraiment extraordinaire, à tel point que c'est devenu un peu l'atelier expérimental pilote pour tous les lycées hôteliers. Quand on fait ça avec les élèves, ça marche à tous les coups, donc ça plaît beaucoup.
Très bien, bon, la salle avant ça, on en apprend une chose. Sonia Esgulian, le sel comme agent conservateur évidemment, pourriez-vous nous résumer en quelques phrases cette recette de citron confit?
Oui, bah c'est encore un voyage, hein, un voyage un petit peu au Maroc, un petit peu en Sicile. Vous avez des beaux citrons. Alors l'important, c'est qu'ils soient bio. On va couper une extrémité des citrons. Donc vous coupez à peu près un demi centimètre. Et là, vous faites une incision en forme de croix jusqu'aux deux tiers du fruit. Pas complètement, c'est-à-dire qu'il faut pas les couper, mais il faut quand même pouvoir un tout petit peu les ouvrir. Pourquoi ? Parce qu'on va en fait les garnir de gros sel. Donc en gros, pour vous avez un bocal qui va pouvoir fermer. Pour un bocal dans lequel vous pouvez mettre 6 citrons, on dit à peu près 250 grammes de gros sel. Donc en fait, vous faites des incisions en croix dans les citrons, et là, vous les garnissez, mais vraiment bien de gros sel. Vous les mettez dans le bocal, et il faut que dans le bocal, les citrons soient bien, bien serrés, un peu comme des sardines. Ça tourne à l'obsession, mais ça marche quand même, donc bien, bien serré. Ce bocal, on le met dans un coin un petit peu frais de la cuisine, pas forcément le réfrigérateur, mais un petit coin frais, et on attend 2-3 jours. En fait, pendant ces 2-3 jours, le jus va s'écouler. En fait, je ne sais pas le phénomène scientifique, mais en tout cas, on va avoir du jus qui ne va pas forcément recouvrir 6 citrons, mais quand même une bonne partie des citrons. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute un petit peu d'eau chaude, on les laisse bien immerger et on attend un mois pour pouvoir les utiliser, par exemple, dans un tagine ou avec simplement un petit poulet rôti. Et ce que je fais aussi, c'est qu'au bout des 3 jours, on peut faire une autre technique. On prend les citrons, on les met dans un bocal avec un petit peu de thym, d'origan, un piment, un peu d'ail, ce que vous voulez, et vous les recouvrez d'huile d'olive. Et là, pareil, vous attendez, peut-être pas un mois, mais quand même quelques jours de macération. Et là, vous avez des citrons, alors absolument délicieux, et une huile fabuleuse.
Ah oui,
une
huile parfumée au citron confit.
Et aux petites choses aromatiques, thym, piment, etc.
Merci Sonia Esgulian. Christophe Lavelle, en un mot, qu'est-ce qui se passe dans le bocal de Sonia Esgulian quand elle fait des citrons confits avec cette saumure qui est donc ce mélange d'eau et de sel?
Bah, il se passe plein de choses. Une qu'on voit très bien justement et qu'elle a mentionné, c'est le fait qu'il y a de l'eau qui sort des citrons. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'osmose, c'est-à-dire que grosso modo, pour équilibrer la concentration en sel de part et d'autre entre le milieu extérieur et le citron, eh bien, il y a de l'eau qui sort du citron pour diluer le sel qui a été rajouté. Et une autre chose qui se passe mais qu'on voit pas, qui est le fait qu'il y a un développement bactérien derrière, ce qu'on appelle la lactofermentation.
Et oui.
Et du fait qu'il y a un milieu très salé, en fait, ça va sélectionner les bonnes bactéries entre guillemets, c'est-à-dire que les bactéries lactiques et qui vont se développer dans le milieu de manière préférentielle par rapport à d'éventuelles bactéries pathogènes qui traîneraient par là, mais qui de toute façon ne supporteront pas la concentration en sel, donc a priori ne vont pas poser de problème.
D'où le sel comme agent conservateur. Magnifique. Merci Sonia Esgulian d'avoir mis votre grain de sel dans les marmites de ce On va déguster XXL. J'espère vous retrouver bientôt dans notre émission. Vos recettes sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Il y a notamment en vidéo cette recette que je vais essayer très très vite à la maison. La fougasse à la fleur de sel, elle est garantie. Si elle est aussi bonne que belle, ça je peux assurer qu'il y a pas mal d'auditeurs qui se pencheront sur le sujet. Merci beaucoup Sonia. Christophe Lavelle, vous restez avec nous car nous allons aborder dans un instant une question sur laquelle vous avez peut-être votre mot à dire. D'où vient le goût salin de certains vins? Eh bien, figurez-vous que Jérôme Gagnès a enquêté sur le sujet. Mais avant, on écoute un peu de soleil créole à la sauce new-yorkaise. C'est David Walters, Criez-moi-en.
La vie.
sel, expliqué par le scientifique Christophe Lavelle, le sel en cuisine, et on va le voir aussi dans le verre, puisqu'on dit que certains vins, et notamment des blancs, on dit qu'ils développent une saveur saline, notamment en fin de bouche. D'où vient cette perception gustative? Y aurait-il du chlorure de sodium dans certains vins? On tente de résoudre cette énigme avec notre chroniqueur vin.
On va déguster sur France Inter.
Bonjour Jérôme Gagnez.
Bonjour François-Régis, bonjour à tous. Alors effectivement, c'est une question absolument passionnante que la salinité dans le vin, parce que ça rejoint aussi d'abord la notion de minéralité qui est plutôt décriée, en tout cas à mon avis très galvaudée. Pour cette enquête passionnante, je me suis appuyé sur les travaux et des discussions avec Marc-André Selos, qui est chercheur en biologie et professeur d'histoire naturelle au Muséum d'histoire naturelle, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le goût et les couleurs du monde » aux éditions Actes Sud sur les tanins, qui est passionnant. Gabriel Lépouzé, neurobiologiste à l'Institut Pasteur, et David Lefebvre, œnologue et journaliste. Et la discussion et les lectures m'ont amené aux conclusions suivantes. C'est très intéressant parce qu'en fait, le caractère salin dans le vin, il provient partie en fait du sol. C'est ce qu'on appelle les salinités minérales, et c'est en premier lieu le sodium et le potassium que la plante puise dans le sol. Elle fait des réserves, elle les met notamment dans le raisin, et ce sont ces minéraux que l'on peut retrouver dans le vin. Ça peut apporter un type de salinité, mais c'est pas le principal, probablement pas. Il y a une autre salinité qu'on perçoit, qui est l'umami, et en fait, ça, c'est une salinité organique, c'est-à-dire que ça n'est pas une salinité qui vient de minéraux, mais c'est en réalité, enfin disons indirectement, c'est une salinité qui provient d'acides aminés, donc c'est organique, qui sont dégradés, qui apparaissent lors de défermentation et de l'élevage sur lit. Alors en fait, ça montre que ce qu'on associe souvent en termes de la salinité, on l'associe souvent en fait à la minéralité, on s'aperçoit que la minéralité dans le vin, elle n'est que indirectement l'expression d'un sol. Mmh. Il y a le filtre de la fermentation et de l'élevage, et qui permet en fait de révéler ça. Mais donc il y a bien une intervention humaine à travers le travail sur les lits, et qui permet de révéler le caractère salin des vins. Donc c'est très important parce que il y a un grand mythe sur le minéral, sur le fait qu'un vin minéral c'est l'expression pure et sans médias, sans intermédiaire du sol. En réalité, la plupart du temps, il faut l'intervention de l'homme à travers le processus fermentaire, c'est-à-dire que l'homme maîtrise le processus fermentaire et permet en fait, la dégradation organique permet la libération de sels minéraux qui créent la sensation minérale. Alors après, et c'est notamment Gabriel Lepouzé qui a attiré mon attention là-dessus, en fait, il y a aussi beaucoup de constructions mentales qui viennent influencer notre perception physique des goûts, et donc lorsque par exemple il y a beaucoup de fruité et beaucoup de floral dans un vin, eh bien d'une certaine façon notre attention est détournée de ce qui pourrait être salin et minéral, et donc on va pas trouver de salinité. Donc en fait c'est assez complexe, c'est pas aussi simple qu'on peut l'imaginer. Il y a de la salinité dans le vin, ça c'est une évidence. Encore une fois, elle provient soit de c'est une salinité minérale, soit c'est une salinité organique avec l'umami. Mais dans notre perception, parce qu'en fait il y a ce facteur-là qui est essentiel, c'est notre perception, d'abord notre capacité à percevoir la salinité, elle est plus ou moins importante en fonction des individus, en fonction de nos seuils de perception, et puis ensuite, encore une fois, le profil aromatique du vin peut aussi nous détourner de sa salinité. Donc c'est quelque chose qui est très complexe, mais très intéressant, parce que ça ouvre en fait de grandes perspectives sur l'étude du goût et surtout l'étude des perceptions par l'homme dans le vin.
Très bien, et surtout ça tord le cou d'un certain nombre d'idées reçues. Est-ce que vous auriez un vin un peu salin à déboucher, même si on a compris que notre perception du sel n'est pas forcément celle que l'on croit?
Mais oui, justement, parce que en étudiant tout ça, je me suis rendu compte qu'en fait, effectivement, le caractère salin, il vient aussi du vieillissement, puisque la dégradation de matière organique, notamment le vieillissement du vin en bouteille, crée la salinité. Alors j'étais dans ma cave et je suis tombé sur une bouteille d'un vigneron que j'aime beaucoup qui s'appelle Olivier Morin, qui est situé à Chitry-le-Fort dans l'Yonne, à quelques encablures de Chablis, sur des terroirs qui sont des terroirs du Portlandien. Bon, grosso modo, ce sont des terroirs du Jurassique. C'est pas tout à fait le Kiméridgien propre et spécifique à Chablis, mais il y a un peu de Kiméridgien aussi. Et donc, il fait un aligoté. Et j'avais un aligoté 2015. Et donc, je me suis dit, ben, finalement, 2015, il a quelques années de bouteille. C'était une année chaude et assez concentrée. Donc, on a beaucoup de matière, beaucoup d'extraits secs. Et donc, je me suis dit, ben, peut-être que ça va être minéral. Alors, je l'ai goûté. En fait, je l'ai fait goûter à ma femme. Pour m'assurer que j'avais pas de biais, moi, en me disant, ben, je veux un vin salin, je vais le trouver salin. Ma femme l'a trouvé salin. Je l'ai fait goûter à mon père qui habite en face de chez moi. Il l'a trouvé salin. Et donc, je me suis dit, ben voilà, je tiens mon vin salin. Je l'ai goûté, je l'ai regoûté et re-regoûté. Et oui, on a ce caractère salivant, salin. Probablement d'ailleurs qui vient de ce caractère, de cette salinité organique de l'umami. C'est ça. Parce que c'est très salivant. Et ben, c'est un très joli vin. Alors, ça vaut 10 euros sur le site internet du domaine. Je vous ai mis toutes les coordonnées du vigneron sur le site internet. Il expédie pendant le confinement. Ils ont besoin de vendre du vin, ces gens-là. Donc, n'hésitez pas, ça vaut 10 euros. C'est un très joli blanc. Ça se boit jeune, mais ça vieillit remarquablement. Donc vraiment, c'est une affaire. C'est un très joli vin.
Du salin pour saliver. Merci, c'était passionnant votre explication. On est un peu déçus. On avait une vision peut-être un peu plus romantique du sel dans le vin. En tout cas, merci beaucoup. Une petite réaction, Christophe Lavelle, sur ce que vous venez d'entendre. Pas de sel au sens de la salière dans les vins, et notamment ces vins blancs.
Ah ben un peu aussi, manifestement. Parce il a bien mentionné qu'il y avait pas mal de minéraux quand même.
Des minéraux,
que l'on détecte, dans lesquels il y a du sodium et qu'on va détecter parmi d'autres minéraux. Non, ce qui est très intéressant, et j'ai absolument rien à redire par rapport à ce qui a été dit, c'est juste compléter sur le fait que, et insister sur le fait que justement le goût est un sens extrêmement complexe, qu'on appelle un phénomène intégratif multimodal scientifiquement. C'est-à-dire qu'en fait tout ça, ça se mélange dans le cerveau. L'organe du goût, c'est le cerveau. Donc tout ce qu'on va percevoir va être compliqué à analyser en termes de mécanisme. Il faut juste se méfier. Par exemple, le côté salivant, justement, qu'on associe souvent à la salinité, bah, il est aussi déclenché par l'acide. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vins blancs, souvent, qu'on dit être minéraux, alors que justement sur cet effet de salivation, qui sont sur la fraîcheur et la minéralité, et ça peut être dû souvent au fait qu'ils sont acides et donc déclenchent cette salivation.
Merci beaucoup, Christophe Lavelle. Je vous remercie. Vous étiez passionnant quand vous mettez vos connaissances scientifiques au service de la cuisine. On se retrouve bientôt dans cette émission, et en parlant de cuisine, on s'intéresse au destin singulier d'une poétesse et écrivaine américaine originaire du Missouri, Elvira.
Oui, elle a amené les femmes afro-américaines à oser se tourner vers l'écriture. Elle était d'une générosité sans faille, c'était une femme unique et irremplaçable. Ainsi parlait Toni Morrison, la grande écrivaine américaine de son amie Maya Angelou, également grande écrivaine afro-américaine, poétesse, dramaturge, scénariste, militante des droits civiques féministes, disparue en 2014. Née dans l'Arkansas, première étudiante noire d'une école privée, elle fréquente le milieu intellectuel noir à New York, milite et commence à écrire poussée par James Baldwin après la mort de Martin Luther King. C'est la voix d'une femme noire à la fierté indomptable que l'on entend à chaque phrase, des très forts et très autobiographiques, « Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage » ou encore « Tant que je serai noire » que l'on trouve édité au Livre de Poche en France. Malgré les épreuves, et elle en a connu beaucoup, Maya Angelou ne manquait pas d'humour. Elle aimait se décrire dans cet ordre comme « cook, driver, writer », cuisinière, chauffeur, écrivaine. La cuisine était pour elle plus qu'une passion, une manière de vivre. Ses dîners étaient légendaires. Elle a écrit deux livres de cuisine. Le premier « Hallelujah, the welcome table », le second « Great food all day », jamais traduit en français. D'ailleurs, je suis toujours étonnée de ce que tant de livres de cuisine importants, publiés notamment aux États-Unis, n'aient jamais trouvé aucun écho en France, notamment les livres de femmes food writers aussi passionnantes que MFK Fisher, Edna Lewis ou Maya Angelou. Bref, parenthèse fermée. Maya Angelou aimait toutes les cuisines. Ses recettes et les textes qui les accompagnent sont des morceaux de vie intime qu'elle livre. Il y a bien sûr les recettes de l'enfance dans le sud des États-Unis, soupe de haricots noirs, cornbread. Il y a aussi des chapitres entiers dédiés au recyclage des leftovers, les restes. Il y a des souvenirs de dîner parisien, des recettes d'inspiration mexicaine, un détour par la Suède, tiens, une cuisine voyageuse et accueillante. Quelques années avant sa mort, dans un entretien accordé au Guardian, le quotidien britannique, elle disait ceci. « Je ne conduis plus, mais j'écris toujours, et je cuisine. Comme j'ai passé ma vie à nourrir les gens, j'en ai tiré quelques enseignements. L'écriture et la cuisine sont chacune une manière de communiquer. Ma cuisine est une extension de mon autobiographie. » Dans ce type de récit, l'autobiographie, le lecteur doit croire à l'authenticité de ce qu'il lit. Il en va de même avec la cuisine. S'il n'y a pas d'intégrité dans la recette, personne n'accordera sa confiance. Dans mon premier livre de cuisine, j'ai choisi des recettes qui ont ponctué certains des événements clés de ma vie, comme le cassoulet que j'ai préparé pour l'écrivaine culinaire M.F.K. Fisher le jour où elle a déménagé en Californie, et le gâteau au caramel que ma mère m'a fait le jour où j'ai été renvoyée de l'école parce que je ne pouvais plus parler. Maya Angelou a été muette ou emmurée dans le silence pendant près de 5 ans après avoir été violée. Elle disait, pour finir, qu'il fallait s'affranchir des règles, des usages, de la grammaire, dans les textes comme dans les recettes, et ainsi se laisser aller à son propre flot pour trouver sa voie propre. Maya Angelou, c'est la liberté à tout prix, en cuisine comme dans la vie.
Merci Elvira Masson pour cet hommage à Maya Angelou, un destin singulier de femme de mots et de mets. On retrouve en deuxième heure un voyage dans les plus grands repas, les repas célèbres de l'histoire de France, et vous pouvez toujours nous contacter au 01 45 24 7000.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Mais tout de suite, on retrouve l'un des experts musique de France Inter. Comme chaque dimanche, c'est Mathieu Conquet, bonjour.
Bonjour François-Régis.
Des plats aux platines. Il n'y a qu'un pas, ou il n'y a qu'un plat, je sais pas. Enfin, c'est ce qu'on va voir avec vous. Vous nous proposez un nouvel accord mets et musique. Alors, il paraît qu'aujourd'hui, vous faites un show arty.
Mais oui, vous savez, François-Régis, j'entends de la musique partout, y compris quand il s'agit d'artichaut. Déjà, parce qu'il y avait un grand clarinettiste américain qui s'appelait Artichaut. Hein, vous savez, c'était un musicien de jazz, grand séducteur, le mari de Lana Turner, entre autres. Mais je voudrais rester en France et mettre 2 grains de sel aujourd'hui, avec votre permission. Je vais vous faire entendre l'artichaut de 2 manières. Vous allez voir que c'est souvent chaud, les artichauts. On va revenir, il y a presque un siècle en arrière, en 1927, avec un grand succès d'opérette, c'était le Comte Obligado. George Milton était devenu très célèbre avec cet air des artichauts.
Est-ce que les artichauts froids sont meilleurs que chauds? Moi, je ne sais pas, renseignez-moi. Car s'ils sont meilleurs chauds, moi qui les mange froids, je les réchaufferai la prochaine fois.
1934, ça ne nous rajeunit pas, on a les R qui roulent, et artichaut à l'époque s'écrit C-H-A-U-D-S à la fin, les artichauts. Mathieu Conquet.
Ah, je vous avais perdu, mais je vous entends.
On vous a retrouvé. Non, j'expliquais qu'on était sur des artichauts plus que des artifroids.
Oui, bien joué. Vous voyez l'opérette entre deux guerres, mais vous allez voir que l'air de rien, l'artichaut, c'est tout un morceau d'histoire de France à travers la musique et la cuisine. Et puis, vous avez vu, c'est drôle, hein, souvent les artichauts, on écrit ça avec un D à la place du T à la fin, et je pense parce que dans notre esprit, ils sont sachement chauds. Vous allez voir que dans la chanson, dans la musique, il y a souvent cette coloration sensuelle. Hein. L'artichaut, c'est un légume dont on mange la fleur ou le capitule, qu'on effeuille pour arriver sur la partie tendre, hein, sur le cœur d'artichaut, comme le chantait Anne Sylvestre avec les Fabulettes. Alors, pour la recette qu'on a préparée, oui, vous adorez, hein, on adore tous Anne Sylvestre,
évidemment.
Bien sûr. Alors pour la recette avec Marie dont je partage la vie, la cuisinière, elle nous a proposé, vous savez, parce que en ce moment les maraîchers, si vous pouvez trouver un marché près.
Mathieu, ah quel dommage, on va échapper à la recette d'artichaut de Marie et Mathieu Conquet, décidément techniquement. Bon, eh ben non, il n'y a pas d'espoir de retrouver Mathieu en quelque sorte. Donc Mathieu s'apprêtait évidemment à nous raconter une recette qu'on va retrouver dans une petite vidéo qu'il va concocter sur les réseaux sociaux de France Inter. Il avait prévu d'accorder cette recette qu'il a confectionnée avec sa femme Marie, cuisinière de profession, une chanson de Dany qui s'appelle précisément Les Artichauts. À bientôt Mathieu Conquet, même si on est un peu frustré par cette recette interrompue brutalement.
Quel supplice. courge aux artichauts. Si la dame a le cœur gros, au lieu de lui gratter le dos. Si la dame a le cœur gros, offre-lui des artichauts. En silence, plus je pense aux artichauts, plus j'aspire et je délire un artichaut.
On va déguster sur France Inter.
Avec votre roi, mangez, buvez et divertissez-vous.
Je refais une petite parenthèse sur la recette de Mathieu Conquet concernant les artichauts. On n'a pas pu joindre à nouveau Mathieu, mais sa recette est en ligne sur franceinter.fr. À la page, on va déguster. Quand l'histoire de France passe à table, on entendait à l'instant un extrait de Vatel, le film de Roland Joffé. On va voir tout ça avec Loïc Bienassi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, Loïc. Je vous en prie, merci beaucoup d'accepter notre invitation puisqu'on va parler histoire et gastronomie avec vous. Vous êtes rattaché à l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation, l'IEHCA, Université de Tours. Et vous vous penchez régulièrement sur les marmites de l'histoire de France. Un peu plus tard dans l'émission, c'est Jean Lebrun qui viendra mettre son grain de sel dans l'émission autour de notre tradition française des banquets en politique. Loïc Bienassi, on est d'accord pour dire que dans l'histoire de France, la table joue un rôle singulier ?
Alors, la dimension, j'allais dire, politique de la table, oui, c'est incontestable. C'est peut-être même pas spécifique à la France, mais on peut estimer que, du fait du prestige culinaire de la France, ça revêt une importance particulière. Alors, que ce soit dans un contexte très officiel, là où la table comme lieu où le pouvoir se donne à voir, ou dans un contexte officieux, au contraire, comme la table comme lieu du dialogue, une parole un peu plus libre, lieu de convivialité.
Donc un lieu éminemment politique et diplomatique, c'est ce qu'on va voir avec deux événements que nous allons explorer ensemble. Et on va commencer par un premier repas célèbre de l'histoire de France qui pourrait marquer le moment où la grande cuisine française s'affirme dans son identité, dans son originalité. Nous sommes le 24 avril 1671 au château de Chantilly, à 40 km au nord de Paris, à la table du prince de Condé. Alors le prince de Condé était en disgrâce depuis qu'il joua 20 ans plus tôt un rôle trouble pendant la Fronde, cette tentative de renversement de Louis XIV alors que celui-ci était enfant. Et pour se racheter, pour sceller en quelque sorte son retour en grâce auprès de la royauté, le prince de Condé décide de donner une fête somptueuse dans son château, où il vient d'achever d'ailleurs de grands travaux de restauration. Tout va être fait pour séduire et pour éblouir le roi et sa cour. Et c'est aussi ce prestigieux dîner qui va décider du destin tragique du maître d'hôtel François Vatel. L'un des seuls témoignages historiques dont nous disposons sur cet événement, c'est une lettre écrite par Madame de Sévigné à Madame de Grignan, sa fille, deux jours après cet événement, le 26 avril 1671.
Le roi arriva le jeudi au soir. La promenade, la collation dans un lieu tapissé de jonquilles, tout cela fut à souhait. On soupa, il y eut quelques tables où le rôti manqua, à cause de plusieurs dîners où l'on ne s'était point attendu. Cela saisit Vatel. Il dit plusieurs fois « Je suis perdu d'honneur, voici un affront que je ne supporterai pas ». Il dit à Gourville « La tête me tourne, il y a 12 nuits que je n'ai dormi, aidez-moi à donner des ordres ». Gourville le soulagea en ce qu'il put. Ce rôti qui avait manqué, non pas à la table du roi, mais au 25e, lui revenait toujours à l'esprit. Gourville le dit à Monsieur le Prince. Monsieur le Prince alla jusque dans la chambre de Vatel et lui dit « Vatel, tout va bien. Rien n'était si beau que le souper du roi. » Il répondit « Monseigneur, votre bonté m'achève. Je sais que le rôti a manqué à deux tables. » « Point du tout, dit Monsieur le Prince, ne vous fâchez point, tout va bien. » La nuit vient, le feu d'artifice ne réussit pas, il fut couvert d'un nuage, il coûtait 16 000 francs. À 4 heures du matin, Vatel s'en va partout, il trouve tout endormi. Il rencontre un petit pourvoyeur qui lui apportait seulement 2 charges de marais. Il lui demanda, « Est-ce là tout ? Oui, monsieur. Il ne savait pas que Vatel avait envoyé à tous les ports de mer. Vatel attend quelque temps, les autres pourvoyeurs ne viennent point. Sa tête s'échauffait. Il crut qu'il n'aurait point d'autre marée. Il trouva Gourville, il lui dit « Monsieur, je ne survivrai point à cet affront-ci. » Gourville se moqua de lui. Vatel monte à sa chambre, met son épée contre la porte et se la passe au travers du cœur. Mais ce ne fut qu'au troisième coup, car il s'en donna deux qui n'étaient point mortels. Il tombe mort. La marée, cependant, arrive de tous côtés. On cherche Vatel pour la distribuer. On va à sa chambre, on heurte, on enfonce la porte. On le trouve noyé dans son sang.
La marquise de Sévigné racontant à sa fille le suicide de Vatel. C'était une lecture de Stéphanie Duncan dont vous avez certainement reconnu la voix. Et on aura le plaisir de retrouver Stéphanie Duncan dans Autant en emporte l'histoire ce soir à 21h pour une rediffusion consacrée au personnage de Pauline Viardot, grande cantatrice du 19e siècle, pianiste, compositrice et grande amoureuse. Revenons à cette réception de 1671 au château de Chantilly qui se conclut évidemment, on le sait, par le suicide de François Vatel. C'est la marquise de Sévigné, Loïc Bienassi, qui raconte cet épisode à sa fille, et pourtant elle n'est pas présente à la réception de Chantilly.
Non, mais elle précise dans une autre partie de cette lettre qu'en fait c'est le premier gentilhomme de la chambre du prince de Condé qui est venu l'avertir en lui disant, le gentilhomme en question, même d'écrire à sa fille pour qui est dans le sud de la France pour lui expliquer tout ce qui s'est passé. Et en fait, tout de suite, la marquise, alors qu'elle sait, la marquise de Sévigné, alors qu'elle sait que finalement le courrier ne partira que plus tard, elle s'empresse de tout de suite consigner par écrit l'ensemble de ce récit. Parce que elle est quand même choquée par tout cela. Mais de toute façon, dès le 24, dont le jour même de la mort de Vatel, elle avait écrit une première lettre où elle avait eu vent de l'information, mais sans détail.
Mais c'est donc du bouche à oreille, Loïc.
C'est ça, oui, c'est ça. L'aristocratie, j'allais dire, colporte les nouvelles, et on voit d'ailleurs que la nouvelle ensuite va aller dans le sud de la France vers Madame de Grignan, sa fille. Quoi.
C'est ça. On va essayer de comprendre ce geste désespéré de Vatel. Alors revenons déjà à François Vatel, qui est entouré de très nombreuses légendes. Qui était-il ?
Alors déjà, on ne sait pas grand-chose en fait de lui, puisque d'une certaine façon, sa postérité, il la doit d'abord à sa mort et au récit de la marquise de Sévigné. Mmh. On sait qu'il est né sans doute au milieu des années 1620, dans une famille paysanne aisée, et en fait, il devient maître d'hôtel de Nicolas Fouquet, et à ce titre-là, c'est celui qui organise les banquets, les réceptions de Fouquet, et notamment la célèbre, alors justement, voilà encore un repas célèbre, politiquement sensible, j'allais dire, la célèbre fête de Vaux-le-Vicomte, qui aurait précipité la disgrâce de Fouquet, mmh. Louis XIV étant choqué de voir son ministre si fortuné. Alors là aussi, c'est encore sans doute une légende, mais parce que la disgrâce était décidée avant. Mais voilà, donc première partie de la carrière de Vatel, c'est ça, maître d'hôtel de Fouquet. Mmh. Il tombe en disgrâce et puis il revient à la fin des années 1660, comme contrôleur général du prince de Condé, c'est-à-dire qu'il est chargé de l'intendance finalement de toutes ses maisons, et donc notamment d'organiser les festivités. Gourville, qui est mentionné d'ailleurs oui. dans le texte, lui, a la gestion de tous les biens de Condé. Donc ce sont deux postes différents. Mais en tout cas, Vatel, son rôle, c'est d'organiser notamment les grandes fêtes.
On prête à François Vatel, en tout cas c'est la théorie qui a été développée par certains historiens qui vous ont précédé, d'avoir inventé la crème chantilly.
Alors là c'est vraiment totalement faux d'une part. on a des recettes finalement de crème à la chantilly ou de fromage à la chantilly au XVIIIe siècle, c'est là où elles apparaissent, c'est vrai. Par contre, les recettes elles-mêmes apparaissent dès le XVIe siècle. Et on se met à les appeler à la chantilly à partir du XVIIIe siècle. On ne sait pas exactement pourquoi. Quant à l'association entre Vatel et ses crèmes chantilly, mmh. elle se fait sans doute à cause justement de la présence de Vatel à Chantilly et du fait qu'on les dénommait ainsi, mais elle se fait à partir de la fin du 19e siècle simplement. Donc Vatel clairement n'a rien à voir avec la crème Chantilly.
Et comment vous expliquez que Vatel soit aujourd'hui un personnage très familier, tout le monde le connaît de 7 à 77 ans en France, il est mentionné dans nos manuels d'histoire, Gérard Depardieu l'a incarné dans un film de Roland Joffé, alors que Vatel n'était peut-être pas aussi connu de ses contemporains. Comment la légende Vatel s'est construite ?
Non, ça c'est certain. Sévigné dans sa lettre le qualifie de, dans la précédente je crois, dans celle du 24, le qualifie de grand Vatel, c'est-à-dire qu'il avait sans doute il était connu dans les milieux aristocratiques comme un grand organisateur de fêtes, que vraiment étant notamment dû au service qu'il avait rendu chez Fouquet déjà, où il avait eu du coup déjà à servir Louis XIV, Mazarin, etc. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Vatel n'est pas cuisinier mais maître d'hôtel, qu'il n'a donc laissé aucune recette, qu'il n'a laissé aucun ouvrage, et que aucun livre de cuisine de son époque ne souffle le moindre mot à son sujet. Ça, c'est certain. Donc, en fait, c'est à Sévigné qu'il a dû de ne pas être oublié au XVIIIe siècle. Mmh. Et c'est au XIXe siècle, à partir de Sévigné, que différents auteurs vont l'ériger en héros, finalement, de notre histoire culinaire, à partir de cette seule anecdote, en fait. Ce qui fait que même, paraît à la fin du XIXe siècle, en 1886, je crois, un ouvrage qui s'appelle « La cuisine de nos pères, l'art d'accommoder le gibier suivant les principes de Vatel ».
Ah oui.
Ce qui, évidemment, personne ne les connaît, ces principes, forcément. Donc c'est à partir du 19e siècle où toute une légende culinaire s'empare de lui et on lui prête des recettes, on lui prête tout un tas d'inventions comme vous le disiez pour la chantilly. Mm-hmm. Enfin voilà,
c'est une légende qui s'est construite, une mythologie.
Voilà, à partir du récit de Sévigné, en fait.
Alors, on dit que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a entraîné ce geste fatal de Vatel, et la marquise de Sévigné l'évoque dans sa correspondance, ce serait ce suicide à cause de la marée qui n'est pas arrivée à temps. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on entend par marée, hein? C'est pas les marées hautes, les marées basses. Et pourquoi du poisson ce jour-là?
En effet, la marée, là, clairement, n'arrivait pas jusqu'à Chantilly, même à cette époque-là. Et, la marée, c'est l'arrivage de poissons de mer frais, en fait. Tout simplement, ce qui est évidemment quelque chose d'éminemment complexe. Organiser une grande fête comme celle-ci, c'est beaucoup de pression pour Vatel. On voit qu'il n'a pas dormi, etc. Et le fait d'être dépendant de la marée, c'est-à-dire de ces livraisons de poissons frais, j'allais dire, c'est une pression supplémentaire. On voit qu'il envoie des acheteurs, il s'est mentionné dans la lettre de Sévigné, dans tous les ports, c'est-à-dire dans tous les ports de Normandie, parce qu'il multiplie les sources d'approvisionnement. Mais évidemment, tout ça reste très incertain. On sait qu'il a beaucoup plu, par exemple. Or, évidemment, ces routes où doivent circuler les voitures devant livrer le poisson souffrent énormément des grandes pluies qu'il y a eu. Donc, il y a tout un tas d'incertitudes qui planent sur cet approvisionnement. Il faut toujours avoir ça en tête dans l'organisation de telles fêtes. Or, on ne pouvait manger que du poisson, puisque ce vendredi, puisque précisément c'était un vendredi, jour maigre. Ah. Donc Vatel était tenu de servir du poisson.
Mais il aurait pu servir du poisson d'eau douce, à l'époque la carpe ou le brochet était très à la mode.
Tout à fait. C'est un vrai risque qui découle d'un choix gastronomique, parce que dans la hiérarchie culinaire, j'ai envie de dire les poissons de mer, et notamment ceux qu'on pouvait trouver, là on est en avril, à ce moment-là, dans les ports normands, donc je pense au turbot ou à la barbu, étaient des poissons très haut placés, très estimés. Donc pour faire honneur au roi, il a sans doute joué cette carte, joué et perdu d'une certaine façon. Alors, pas totalement perdu, puisque précisément cette marée n'est pas arrivée à l'heure à laquelle on pouvait l'attendre, mais juste avec quelques heures de retard, mais des heures de retard qui lui ont été fatales.
C'est ça, et fête somptueuse, hein, 3000 convives, un feu d'artifice qui ne marche pas à cause du brouillard, mais il y avait des enjeux absolument colossaux, et c'était la gastronomie française dans toute sa magnificence. Hein.
Tout à fait, là c'est vraiment, j'ai envie de dire, on a les plus puissants personnages du royaume, le roi, hein, ça va de soi, et puis Condé, cousin du roi, prince du sang. Ce repas, comme vous l'avez mentionné, enfin, ces festivités sont censées... Alors, Condé est déjà rentré en grâce, mais vraiment scellé ce retour en grâce. Et en effet, on a 2000 personnes qui arrivent, 3000, ça dépend des sources. Ça veut dire loger tout ce monde... aux châteaux, aux alentours, réquisitionner, évidemment les nourrir, les divertir. Donc c'est quelque chose de considérable. Sévigné parle de 25 tables d'honneur, mais peut-être il y avait peut-être 60 tables au total, et sous des tentes, dans les jardins. Enfin, c'était un dispositif colossal, et on comprend d'ailleurs. Alors, ça n'explique peut-être pas totalement son geste, mais on comprend que réellement, Vatel soit épuisé au moment où ces fêtes se déroulent.
Voilà, la pression sur les épaules de Vatel qui le conduisit à ce geste. Très intéressant ce dîner de Chantilly 1671. Je vous propose de parcourir l'histoire, Loïc Bienassi, et de faire un bond de plus de 140 ans pour se pencher, sans transition ou presque, sur le congrès de Vienne qu'on va évoquer un peu plus rapidement. Le congrès de Vienne qui s'est déroulé du 1er novembre 1814 au 9 juin 1815. Alors cet événement se déroule 6 mois après la chute de Napoléon. Les pays vainqueurs se retrouvent à Vienne, capitale de l'Empire d'Autriche, pour signer et négocier les conditions de la paix et recomposer l'Europe. La France arrive en pays vaincu, elle est acculée. Elle doit peut-être sauver les meubles dans ses négociations à Vienne et elle aurait bénéficié d'une carte maîtresse en la personne de...
De Talleyrand.
Présentez-nous ce personnage qui est assez controversé quand même dans notre histoire.
Oui, c'est-à-dire que évidemment, on le présente toujours comme celui qui a retourné sa veste encore et encore, qui a trahi Napoléon. Alors, on pourrait en discuter, il y a sans doute une part de vérité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un atout, en effet, parce que c'est un diplomate extrêmement chevronné. Et la France, alors là, la France ne joue pas sa survie, évidemment, elle ne risque pas d'être dépecée au congrès de Vienne, mais elle doit s'imposer quand même dans le concert des nations. Elle a perdu sa place suite, évidemment, à l'effondrement de l'Empire 6 mois auparavant. Donc, en effet, il y a beaucoup à jouer.
Et Talleyrand est donc ministre des Relations extérieures, il est envoyé par Louis XVIII.
Tout à fait.
Alors visiblement vous dites effectivement il a passé sa carrière à trahir. C'est en tout cas ce que dit une certaine mythologie. En tout cas, il avait une certaine constance pour la gastronomie qui va jouer un rôle essentiel dans les négociations de Vienne.
Alors clairement, Talleyrand c'est un gastronome. Tous ses contemporains s'accordent à le dire. On sait que par exemple lui à son hôtel Saint-Florentin, il a toujours une des meilleures tables de Paris, incontestablement. À l'hôtel Saint-Florentin qu'il occupait à ce moment-là, il avait 4 chefs à son service, un rôtisseur associé. C'est vraiment quelqu'un qui a toujours accordé une grande place à la table et qui a toujours aussi aimé parler. On voit dans sa de nourriture, de gastronomie, c'est un gastronome et sa correspondance, ses lettres personnelles par exemple, sont pleines de ces questions de bouche, de recettes, de produits, de considérations diverses. Donc oui, Talleyrand est un personnage qui accorde énormément d'importance à cet aspect des choses.
On considère Talleyrand comme l'un des pères de ce que l'on pourrait appeler une diplomatie gastronomique, ce que Laurent Fabius a baptisé il y a quelques années la gastronodiplomatie. On dirait aujourd'hui que c'est un soft power. En tout cas, Talleyrand avait bien compris, visiblement, qu'il pouvait séduire ses interlocuteurs, notamment par les plaisirs de bouche et par le prestige gastronomique français. On prête à Talleyrand d'avoir répondu au roi qui lui confiait une longue liste de recommandations avant le congrès de Vienne. « Sire, j'ai plus besoin de casseroles que d'instructions écrites. » Est-ce que c'est une phrase exacte, historiquement ?
Alors moi, je serais très curieux de savoir, de connaître la source de cette citation qu'en effet on retrouve sans arrêt. Je suis plus que sceptique. Moi, je crois qu'en fait, on a mis dans la bouche de Talleyrand une phrase qu'on estimait lui correspondre parfaitement. Et je pense que c'est à partir de la fin du 19e siècle qu'on a commencé à lui prêter cette phrase. D'autant que les instructions en question, c'est lui qui les a écrites. Donc, je dirais, il les avait, ces instructions, de sa propre plume. Donc voilà, cet homme qui, en effet, accordait tant d'importance à la cuisine, à l'art culinaire, eh bien, on avait envie de lui prêter ce type de phrase.
Et on évoque
donc,
souvent...
Ça fait partie de cette mythologie culinaire de la France.
C'est ça, et on évoque souvent un rôle déterminant d'un chef à l'époque très connu, qui était au service de Talleyrand, le cuisinier Antonin Carême.
Alors oui, alors Carême, c'est en effet, alors qu'on présente généralement comme le plus grand cuisinier français, j'allais dire de la première moitié du 19e siècle, même de l'histoire. C'est quelqu'un qui alors a commencé comme pâtissier, mais alors contrairement à ce qu'on dit souvent, il a été employé très régulièrement par Talleyrand, à mon avis plus pour des extras sur des longues périodes, c'est pas très clair en fait, parce que la vie de Carême n'est pas toujours si bien connue que ça. En tout cas, au moment du congrès de Vienne, ça fait plusieurs années qu'en effet, il est régulièrement au service de Talleyrand. Et la seconde partie de sa carrière, elle se fera à travers l'Europe. On dit souvent cuisinier des rois, roi des cuisiniers, pour parler de lui. Et en effet, il va servir tout un tas de têtes couronnées à travers l'Europe.
Mais il n'aurait pas été forcément présent au congrès de Vienne.
Non. Là, ça aussi, c'est une chose qu'on lit très souvent, comme quoi justement cette grande table de Talleyrand devait beaucoup à Carême. Or, il est à peu près certain qu'il était absent. Alors, évidemment, absence de preuve n'est pas preuve de l'absence, mais en l'occurrence, personne ne parle de lui à Vienne. Et surtout, je crois que la plus grande preuve, c'est que lui-même, alors qu'il a tendance à beaucoup disserter sur ses hauts faits d'armes, Carême ne mentionne pas une seule fois sa présence à Vienne. Donc moi je pense, enfin, il est à peu près certain qu'il n'y était pas.
Talleyrand a donc défendu les intérêts de la France au congrès de Vienne grâce à la gastronomie. Et juste un petit mot sur un concours des fromages qu'il aurait organisé justement à Vienne en février 1815. En un mot, Loïc Bienassi.
Mais en fait, là, lors d'un de ces repas qu'il organisait, un de ses dîners, étaient présents différents représentants de plusieurs pays. Et on commence à disserter au dessert sur les vertus des différents fromages. Alors le représentant de l'Angleterre vante le Stilton, l'un vante le Stracchino de Milan, un Suisse le Gruyère, un Hollandais le fromage de Limbourg. Tout d'un coup, le courrier arrive et apparemment, on a, avec le courrier, viennent des brie livrées de France directement, Talleyrand les sert et par cette dégustation met tout le monde d'accord. Et pour reprendre l'extrait d'un journal d'un témoin de ce moment-là, explique que le brie est alors proclamé roi des fromages. Et donc le brie, à ce moment-là, aurait été reconnu par tous les puissants d'Europe, premier fromage du continent, le meilleur de tous les fromages.
Le brie de Meaux, en voilà, le vrai vainqueur du congrès de Vienne en 1815, ce fut le brie de Meaux qui a depuis acquis effectivement cette réputation internationale. Je vous propose, Loïc Bienassi, d'accueillir Jean Lebrun, bonjour.
Bonjour François-Régis.
Ah, la voix de Jean Lebrun, elle fait du bien en ce dimanche matin. La marche de l'histoire rediffusée du lundi au vendredi de 14h30 à 15h. Merci de passer à table avec nous Jean. Quand on vous a lancé sur ce thème des grands repas de l'histoire de France, vous aviez envie de nous rafraîchir la mémoire sur une singulière tradition de notre vie politique où politique et cuisine étaient étroitement liés, les banquets.
Ah oui, parce que vous avez beaucoup parlé des grands et moi j'ai essayé d'introduire les Français si vous voulez bien.
Mais bien sûr.
Prenons justement comme date de départ 1815, la recomposition de l'Europe avec le congrès de Vienne, et puis en France, la tentative, le pari d'une monarchie parlementaire qui n'a pas été transformée, mais qui était intéressant. Alors, les libertés fondamentales que nous connaissons encore en principe, aujourd'hui n'existaient à l'époque qu'à l'état expérimental, la liberté d'élire ses représentants, bon, il y avait en 1830, 150 000 électeurs, 240 000 en 1846, c'était le suffrage censitaire. On n'avait pas non plus la possibilité de se réunir publiquement. Et c'est pour ça qu'on a inventé la formule du banquet pour faire opposition. Il n'était pas interdit de se réunir dans un lieu privé pour écouter les commentaires des leaders politiques qui s'opposaient à la monarchie. Ainsi, février 1830, les députés, ils sont 121, votent une adresse à Charles X, le roi de l'époque, en lui demandant de renvoyer son ministère qui n'est pas représentatif. Et le relais de la tribune est pris par un banquet. Et le banquet, il est convoqué dans un restaurant très connu à l'époque qui s'appelait les Vendanges de Bourgogne, bar du Temple. Et la révolution de juillet 1830 va intervenir aussitôt après. Mais quand vous m'avez proposé les banquets, parce que c'est une idée de vous, François-Régis, vous pensiez évidemment à la haute époque du banquet réformiste. C'est maintenant sous le règne de Louis-Philippe en 1847. Le roi Louis-Philippe est un peu immobile, hein, il ne veut pas toucher au corps électoral, il ne veut pas introduire de réformes, son ministre Guizot non plus, et l'idée revient d'inviter des convives à écouter les députés d'opposition dans des banquets. Il va y avoir 70 banquets à travers la France, certains réunissant plus de 1000 personnes. Mm-hmm. Alors il y a un grand témoignage qui est très bien connu, c'est celui de Flaubert, qui n'aime pas beaucoup les idées démocratiques. Il raconte un banquet à Rouen. Nous sommes en décembre 1847, il fait un froid de chien, et on lui sert des discours, des toasts. Le citoyen doit se dresser contre la couronne, le timon de l'État n'est plus tenu. Alors il dit, en langage gastronomique, voilà la farine des galettes qu'on nous a servies en même temps que les toasts. Et puis après, il donne le menu, vous êtes friand le menu, François Régis.
Ouais,
dindon froid, cochon de lait. Et tout ça, ça dure plus de 9 heures. Il sort gelé, Flaubert. Et en plus, il a dû se tenir à côté de son serrurier. Et son serrurier lui a tapé sur l'épaule familièrement pendant toute cette durée. Parce que le banquet de réformiste qu'il était au départ est devenu, les semaines passant, démocratique. Les cuisiniers de la monarchie de Juillet, ce sont des gens assez politisés. Ils sont au contact des grands, ils en voient les défauts. Les hommes du peuple qui, d'abord, au début de la campagne des banquets, se tiennent debout, silencieux, pour observer les convives bourgeois qui ont payé 20 francs le menu, l'équivalent d'une semaine de salaire, ils finissent par s'asseoir. Et là, ils veulent des banquets à 2 francs.
Mm-hmm.
Et vous êtes toujours friands de menu, ben, c'est pas extraordinaire. Hein.
Ouais.
Jambon, noix et vin. Vous savez, la recommandation, il faut toujours sortir de table avec un peu d'appétit. Et ben là, ils sont sortis avec l'appétit de la révolution.
Menu frugal.
La révolution est venue en février 1848.
Heureusement.
Vous parliez des grands.
Oui.
Juste un mot pour vous dire quand même que le vrai banquet démocratique qui est resté davantage dans les mémoires, c'est celui de la Troisième République, parce qu'on invite dans les villes de province les autorités de la capitale. Et on se sert du banquet pour intégrer les petites patries dans la grande patrie et introduire les plats du terroir. Alors, j'ai le menu 1881 du banquet offert par sa bonne ville de Cahors aux camarades Gambetta avec des produits de l'Ouest.
Salivons, dites-nous.
Perdreau de camaret à la broche. Des produits de l'Est. Alors, il y a l'Est perdu. Les tartares de saumon du Rhin. On fait venir d'Allemagne maintenant, en 1880. Et puis l'Est conservé, les écrevisses de la Meuse. Parce que si la gastronomie française, vous l'avez bien raconté, est née du pouvoir des grands, quand la campagne des banquets a amené un esprit plus démocratique, et puis quand même la magnificence du terroir,
bien sûr.
La glorification du terroir, ben c'est quand même la Troisième République.
Et oui, la Troisième République, absolument, les banquets de la Troisième République qui, pour le coup, mettaient en valeur, en effet, les ressources et les richesses de nos différents terroirs. Merci beaucoup, Jean Lebrun, pourrait vous garder 2 heures. Vous êtes absolument passionnant. Je rappelle que...
Les banquets des maires de France,
oui.
Avec 20 000 convives en 1900, n'ont duré qu'une heure et un quart.
Oui, c'est ça. Oui.
La marche. J'ai été trop long.
Non, mais vous étiez parfait. Merci beaucoup. Et la marche de l'histoire est rediffusée, précisons-le, du lundi au vendredi. Et demain, c'est un épisode consacré à la chanson de Roland. Merci beaucoup, Jean Lebrun. À très bientôt.
Une série avec Michel Pastoureau.
C'est ça. Un grand merci, Jean Lebrun. À bientôt. Strange Girl de la chanteuse anglaise Laura Marling.
yourself a socialist to have something to defend. Oh, yeah.
On va déguster XXL et merci beaucoup à l'historien Loïc Bienassi de s'être assis à la table de l'histoire de France. Loïc Bienassi, toujours passionnant, qui vient régulièrement dans l'émission On va déguster pour nous parler de l'histoire de la gastronomie. Et bien justement, quand le cinéma mélange aussi nourriture et histoire, c'est la petite séance de cinéma gourmand de Laurent Delmas. Bonjour.
Bonjour François-Régis, bonjour à toutes et à tous.
Vous avez l'appétit?
Oui, bien sûr, comme toujours. Bon, alors écoutez, il est donc question aujourd'hui des grands repas qui ont fait l'histoire et dont le cinéma a lui aussi rendu compte. Je m'exonérerai un peu l'histoire de France pour commencer, pardon, hein, François-Régis. J'ai pensé que de la scène du film à la scène du Christ, il n'y avait évidemment qu'un pas. Et oui, c'est pourquoi je vous propose d'écouter un extrait du somptueux film de Pier Paolo Pasolini, L'Évangile selon saint Matthieu. Mais le moment précisément où le Christ rompt le pain et partage le vin avec ses disciples, alors en VO, dans cette langue italienne que nous aimons, et pour des formules que nous connaissons par cœur, ou presque.
Prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza. Che è sparso per molti in remissione dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò più di questo succo della vite, fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi, nel regno del Padre mio.
C'était l'Évangile selon saint Matthieu, un film de 1964 de Pasolini.
Absolument, que vous pouvez d'ailleurs voir et revoir sur l'excellent site de VOD Univers Ciné. Alors, c'est certes un repas bien frugal, me direz-vous, François-Régis, mais on peut imaginer, comme le fait Pasolini d'ailleurs, que le pain accompagne un plat et qu'il s'agit d'un repas essentiel, fondateur, mystique. Pas étonnant alors que le cinématographe s'en soit emparé dès sa naissance. La première vie de Jésus sur grand écran date de 1896. Le cinéma n'avait pas un an. C'est l'ancêtre de nos biopics actuels et la scène en constitue souvent un élément évidemment central. Et c'est peut-être même, allez tenez, le premier vrai repas montré sur un écran de cinéma avec une dramaturgie pour le moins efficace. Rappelons en effet tout de même que c'est durant ce même repas que la traîtrise de l'un des disciples est évoquée. Ce repas n'est pas décidément un repas comme les autres. Chez Pasolini, sa transcription cinématographique atteint des sommets d'épure et d'émotion. Ce n'est pas un repas, mais c'est un événement. Et c'est évidemment placer la barre un peu haut, mais le cinéma s'est souvent emparé de ces grands festins ou de ces dîners en tête-à-tête qui jalonnent l'histoire. Alors, parce que finalement, vous êtes bien plus cinéphile que je ne suis gourmand gastronome, François-Régis. Vous m'aviez ainsi suggéré les dîners versaillais dont la Marie-Antoinette de Sofia Coppola, ou bien encore les tartelettes amandines servies à table de Cyrano de Bergerac, de Jean-Paul Rapneau. Et ben, tout cela, vous avez bien raison de me le signaler. Alors, on se souvient également, et on va un petit peu raccorder à ce qu'on disait précédemment, de la version filmée de la pièce de Jean-Claude Briseville, Le Souper, soit la rencontre nocturne autour d'une table bien pourvue de deux monstres politiques français, on le retrouve, le royaliste Talleyrand, joué par Claude Riche, et le républicain Fouché, incarné par Claude Brasseur. Alors oui, c'est un dialogue imaginaire, mais comme disait Alexandre Dumas, on peut faire des enfants à l'histoire à condition qu'ils soient beaux. Le souper en question est un affrontement au sommet, et l'alcool aidant, les deux hommes deviennent comme les deux complices d'une tragédie politique en marche. Pour terminer, les soupers orgiaques que Bertrand Tavernier a mis en scène pour son Que la fête commence. Oui. Vous vous souvenez, François Régis?
Oui, bon. Film historique, en costume.
Mais oui, bah alors eux, ils sont pas imaginaires du tout, effectivement. On en écoute la belle musique écrite par Philippe d'Orléans lui-même en son temps. Ils ont bel et bien existé, ces soupers, durant cette régence volontiers scandaleuse. Des soupers où se mêlent aristocrates et prostituées, tandis qu'un jésuite, confesseur, se détruit les mains à ouvrir des huîtres. Des soupers qui montrent l'opulence et la décadence, la jouissance et l'arrogance. Bref, des moments de pur spectacle où mettre en scène la cuisine revient à refaire l'histoire pour de vrai, ou presque, ce que le cinéma, François Régis, a toujours adoré faire.
Que la fête commence, le film historique de Bertrand Tavernier, sorti en 1975, avec un casting impressionnant, hein. Noiret, Rochefort, Marielle.
Mais bien sûr, absolument. Est-ce qu'on peut dire juste un petit mot pour en terminer que mardi prochain, sur l'antenne de France Inter, on parle de culture, de culture, de culture toute la journée pour penser à tous ces secteurs qui ont bien besoin en ce moment de notre aide et notre soutien, et notamment, entre autres, le cinéma.
Merci beaucoup, Laurent Delmas, de nous le rappeler. Et à dimanche prochain, cher Laurent, pour une nouvelle séance de cinéma gourmand, sans transition. On passe, attention, à une super pizza à faire à la maison. Sans se servir vraiment du four, vous allez comprendre.
On va déguster. Sur France Inter.
Elvira Massone, come va?
Si.
Una pizza.
Et tout. Si. Alors une pizza, mais plutôt avec l'accent marseillais. Donc italien-marseillais, ça va être un peu compliqué à effectuer comme accent. Là, je me lance pas. Parce que je voulais vous donner quelques nouvelles de notre amie Maeva Engelmann Piazza.
Et oui,
la patronne de la pizzeria La Bonne Mère. Ben oui, qui est une de vos adresses préférées, François Régis.
Pizza exceptionnelle.
Rue du Fort du Sanctuaire. Ouais, magnifique. Pizza au levain, four à bois. On est rue du Fort du Sanctuaire dans le 6e arrondissement. Cette pizzeria est actuellement fermée, évidemment. Et Maeva proposera ses superbes pizzas à emporter dès le 12 mai au soir.
C'est une bonne nouvelle. Et un petit salut à Elvira au pizzaiolo, évidemment. Jérémy, hein.
Jérémy, pizza. Bien sûr. Mais en attendant, pour patienter, Maeva nous a confié sa recette de pizza à la poêle. Ouais, ouais. La pizza à la poêle, ou pizza in padella, est une vieille tradition populaire napolitaine qui se pratiquait dans les foyers modestes, dans lesquels il y avait souvent pas de four. C'est un cas typique de ce qu'on appelle en italien casalinga, la tradition du fait maison. Et vous savez qui était fan de cette pizza à la padella? Une actrice mythique,
oui.
Originaire de Naples.
Ah, j'ai une petite idée.
Allez.
Sophia Loren.
Ben ouais.
J'ai un peu triché, j'ai fait quelques recherches.
Lorraine, et ça m'étonne pas. Qui était également évidemment magnifique actrice, grande cuisinière et autrice de livres de cuisine. Alors le principe de la pizza à la poêle est le suivant. Je ne vous donne pas les proportions exactes, elles sont sur le site.
Parfait.
On va déguster. De la farine T55, du sel mélangé dans un cul de poule. On incorpore de l'eau petit à petit dans le cul de poule jusqu'à obtenir une pâte homogène qu'on travaille comme on peut à la spatule. On peut également la mettre dans le bol d'un robot si on a. Moi, j'ai fait à la main, hein. J'ai fait ça ce matin à l'aube. On incorpore de l'huile progressivement, de l'huile d'olive. On incorpore un petit peu de levure fraîche de boulanger effritée dans cette pâte. On mélange bien. On travaille cette pâte, on la laisse reposer très longtemps, 6 heures à température ambiante, sous un torchon ou dans un film alimentaire, c'est même mieux, il ne faut pas qu'il fasse chaud dans la pièce. Après ce temps de repos, on forme des pâtons qu'on laisse reposer de nouveau 2 heures, puis à température ambiante, puis on étale cette pâte au rouleau dans de la semoule fine.
D'accord.
Vous avez bien entendu, hein, de la semoule fine.
J'ai bien suivi.
On commence la cuisson à la poêle bien chaude, légèrement huilée. Alors, il vaudrait mieux disposer d'une poêle à crêpes, hein, si on veut que la pizza soit bien plate. Moi, j'ai pas de poêle à crêpes, donc je me suis débrouillée comme je pouvais. Et j'ai fait, évidemment, une pâte à pizza de la taille de la circonférence de ma poêle.
Tant qu'à faire.
Plus petite qu'une pizza de... Bah oui, ça vaut mieux. Sinon, on est mal. On ajoute la sauce tomate une fois que le dessous de la pâte est bien cuit.
Ah,
et c'est là tout l'intérêt de cette cuisson à la poêle. feu moyen à vif. Moi, j'ai un peu alterné entre les deux. L'intérêt de cette cuisson à la poêle, et idéalement, c'est une poêle en fonte qu'on utiliserait, c'est de pouvoir pousser la cuisson par en dessous et ainsi obtenir ce côté quasi, pas vraiment cramé, mais pas très loin de cramé, qu'on aime tant dans la pizza
et, oui,
et qu'on a du mal à obtenir dans un four ménager, quoi, entre guillemets. Une fois que le dessous de la pâte est croustillant et un tout petit peu cramé, on met la pizza dans sa poêle, sous le grill du four, quelques minutes au plus chaud. Les bords de la pâte vont devenir craquants. On garnit avec ce qu'on veut. Ce matin, moi, j'ai mis de la sauce tomate, mozza, origan, et c'est hyper satisfaisant. C'est pas exactement comme une pizza de restaurant, c'est pas exactement comme la pizza de Maeva, mais c'est quand même très satisfaisant.
Charles Pellabon, notre technicien, il est un peu déçu. Il dit, il me dit au casque, faut quand même un four. Mais l'intérêt, ce qu'on dit à Charles, c'est que l'intérêt, c'est que cette pizza, en fait, elle mérite d'être un peu croustillante dessous, et effectivement, il y a une petite finition au four.
Exactement, parce que le problème des pizzas qu'on fait à la maison, c'est qu'elles sont un peu mollassonnes en général. Est-ce qu'on peut rester encore une toute petite seconde à Marseille?
Vraiment 10 secondes.
L'initiative Moules Frites Solidaires dont je vous avais parlé, vous vous souvenez, samedi dernier, l'opération est renouvelée samedi prochain.
Ah ben voilà.
Toutes les informations sur la page Facebook de la boîte à sardines et la page Facebook de Gourmet Méditerranée.
Ah oui, puisqu'ils devaient Moules reconduire leur vertueuse. Opération. Tout à fait, à prix, tout à fait accessible. Un grand merci Elvira, vous nous avez fait saliver avec cette pizza à la poêle et un petit peu au four aussi, mais c'était vraiment extraordinaire. On reste en Italie parce que on a un coup de fil justement d'un Français habitant Milan. Bonjour.
Bonjour François Régis.
Vous êtes Martin.
C'est ça.
Vous vivez en Lombardie. Come stai?
Exactement. Tutto bene.
Tutto bene. Et alors le confinement en Italie, vous êtes encore confiné ou vous êtes un peu plus libre de vos mouvements?
Non, encore confiné. Demain, ça commence un peu à se libérer dans le sens où on peut aller voir les familles, etc. Ce ne sera pas mon cas, ou du moins la famille de ma compagne. Mais donc ça s'ouvre un tout petit peu, mais c'est pas non plus
d'accord.
Totalement libre, on va dire.
Donc vous restez encore à la maison. Je crois savoir que vous avez la passion de la cuisine chevillée au corps et à l'estomac, et vous nous proposez alors en quelques phrases, s'il vous plaît, désolé, une sauce tomate italienne, mais plutôt du Nord.
Exactement. Donc la sauce tomate en Italie, ils la font surtout avec ce qu'ils appellent un soffritto,
si.
C'est-à-dire c'est de la carotte, oignon et céleri dans l'huile d'olive,
c'est
et ensuite les tomates.
Cipolla.
Exactement. Et là, la différence avec la recette du Nord, en fait, c'est qu'à la place de l'huile d'olive, on va mettre du beurre. Alors je ne sais pas s'il y a une inspiration française, mais c'est typiquement du Nord de l'Italie. Et donc du coup, ça vous rend une sauce beaucoup plus épaisse, beaucoup plus gourmande. Et ce qui est très important, alors moi je le fais avec des tomates pelées, parce qu'il se dit que les tomates pelées sont, en tout cas dans la grande distribution, c'est le produit de la tomate, c'est pas le jus de tomate, etc. Les tomates pelées sont meilleures. Et ce qui est très important, c'est de le faire réduire un maximum, donc presque arriver avec une consistance de concentré de tomate presque.
C'est
et
ça.
Avec le beurre, ça ce sera fabuleux avec des pâtes, spaghettis ou alors sur la pizza à la poêle.
Génial. Sur la pizza à la poêle de Elvira, on y est. La boucle est bouclée. Un grand merci Martin de nous avoir appelé de Milan. Milano, ciao et à très bientôt. On se retrouve dimanche prochain de 9h à 11h pour un nouveau On va déguster XXL. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.